Winnet en direct
avec JC,
Mono et Patricia.
Juste à se connecter avec notre cœur et c'est tout.
Radio X.
C'était pas prévu, mais on vient juste de parler. Je savais pas que Gary allait me parler du système de santé. Parce qu'il y a eu des annonces récemment que, auxquelles je ne crois pas du tout. Là. C'est, on s'en va, nous autres, fin de mandat, on va rénover l'hôpital que vous nous demandez de rénover depuis 8 ans.
Ben oui, puis on sort un budget demain.
Ben oui, mais ce sera fait, inquiétez-vous pas. Là. Donc, au-delà des fausses promesses et du reste, ben on va être raccord puisque notre chroniqueur Vincent Gelozo voulait justement nous parler de notre extraordinaire système de santé. Vincent, tu es salué, bonjour.
Bonjour, comment ça va?
Ça va toi-même, la santé?
Écoute, je suis en très bonne santé, largement parce que quand j'ai besoin de soins médicaux, j'ai pas de liste d'attente ici aux États-Unis, ce qui est très, 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 très plaisant.
Hey, raconte-moi comment ça... Parce que moi, je comptais, puis j'ai pas d'expérience. Je suis pas tombé malade là, lors d'un voyage aux États-Unis. Je me suis même jamais blessé. Je suis jamais rentré dans un hôpital américain. Mais je racontais que sur le long de la 95, quand on descendait, puis peut-être ailleurs aussi, mais dans le coin de Richmond, entre autres, tu as 2-3 hôpitaux sur le bord de l'autoroute qui s'en relancent à coup de publicité pour dire « Nous autres, c'est 7 minutes d'attente. Nous autres, c'est 5 minutes d'attente. Nous autres, c'est 4 minutes. » Raconte-moi l'expérience d'un client. Ici, on ne sait pas c'est quoi, puis on ne veut même pas utiliser le terme. Raconte-moi l'expérience d'un client. Toi, mettons, là, tu files pas. Qu'est-ce qui se passe, puis comment ça marche?
Mais premièrement, c'est peut-être plus... J'aimerais mieux le mettre de la perspective de l'entrepreneuriat médical, si tu veux, d'une certaine manière. Et sans faire une défense du système américain, parce qu'il y a plusieurs failles dans le système.
Pas de failles, rien parfait.
C'est que quand tu peux faire profit de l'activité que tu fais, les gens pensent que ça veut dire que c'est de l'abus, les prix sont élevés. Mais en réalité, ce qu'on observe, c'est que les services sont plus flexibles. Il y a des coûts plus bas pour chaque unité de service. Et ce qui se passe, c'est que tu vas avoir une multiplication des cliniques privées, des cliniques 24 heures, des cliniques avec des types de services différents. Et donc, c'est très facile d'avoir une première rencontre avec un médecin. Et les délais entre un généraliste et un spécialiste sont encore beaucoup plus courts parce que l'entrepreneuriat fait que tu peux trouver des cliniques qui font partie d'hôpitaux, des hôpitaux, des mini-hôpitaux, des hôpitaux importants, des hôpitaux de recherche. Donc, tu as beaucoup plus d'entrepreneuriat et ça fait que tu as un service qui est nettement supérieur aux États-Unis. Puis la meilleure illustration de ça, c'est quand tu es aux États-Unis puis tu regardes les indicateurs de performance du système de santé. Donc, tu ne regardes pas l'espérance de vie parce que ça peut être contaminé par les homicides, par les accidents de la route. Tu regardes vraiment, une fois qu'une personne se présente à l'hôpital, c'est quoi la performance? Le meilleur indicateur, c'est par exemple les taux de survie au cancer. Bien, aux États-Unis, si tu as le cancer du pancréas, tes chances de survivre à l'intérieur de 5 ans après le diagnostic, c'est 4 fois plus élevé qu'au Québec.
Wow!
Ouais.
Même mais ça, là, ça, on nous dit pas ça souvent, Vincent. Là. On nous dit souvent que nous autres, là, c'est peut-être long, mais c'est efficace. Là.
Non, en fait, ce qui se passe au Québec, c'est que peut-être la meilleure manière de voir, c'est que les Québécois ne payent pas très cher en termes de ce qui sort de leur poche. C'est sûr qu'il y a un coût en impôts, mais il y a surtout un coût qui est difficile à voir, qui est le coût de l'attente médicale. Donc, la joke, un peu, si tu veux, c'est le système québécois de santé est absolument gratuit si tu as les moyens d'attendre.
Oui. Et de l'attente, il y en a, là. On attend tous à un moment ou à un autre.
Exactement. Puis c'est dur de savoir c'est quoi la valeur de l'attente parce qu'on a... Les données sont... Tu penserais qu'il y a beaucoup de données qui sont disponibles par le ministère de la Santé. Moi, je me souviens d'une rencontre avec un ancien ministre de la Santé quand j'étais à l'Institut à Montréal physiquement. On avait un ancien ministre qui nous avait présenté son dossier Excel qui avait tous les hôpitaux de la province avec toute l'information sur eux. Et lui, il disait, moi, je peux gérer en temps réel dans mon fichier Excel tout le système de la santé de la province de Québec. Et une des choses que qu'on n'était pas capable de voir dans le truc, c'était c'est quoi les temps d'attente pour tous ces types de procédures-là. Il n'y avait pas cette information-là, puis c'était un peu...
C'est comme si c'était pas important. Ridicule.
C'était pas que c'était pas important, c'est qu'ils ont une sorte de mentalité un peu différente sur qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puis comment est-ce que c'est un système centralisé. Mais si on met ça de côté, tu dis, bon, si on était capable d'avoir toutes les données, là, que ce fichier-là de l'ancien ministre était absolument complet, puis qu'on avait une sorte de bonhomme angélique qui était sorti du ciel, puis qui nous avait donné toutes les données, est-ce qu'on serait capable d'évaluer le total de la valeur du coût d'attente? Bien, pour ce qu'on a disponible, parce qu'il y en a quelques-uns qu'on a, si tu prends juste la valeur des heures perdues de travail pour les gens qui attendent après avoir rencontré un généraliste. Donc là, on a trouvé c'est quoi le problème que tu as. Donc, disons, tu as un problème de régulation cardiaque. On a compris que c'était ça. Tu vas aller voir tel spécialiste pour tes problèmes. Combien de temps entre la rencontre avec le spécialiste ou la procédure particulière que tu as besoin, donc que tout ton épisode de soins soit terminé? Bien, la valeur de ça, si tu prends juste le temps de travail perdu, c'est l'équivalent de 4 milliards pour les Canadiens pour les opérations qu'on a des données. Si tu prends une estimation un petit peu plus libéral. Donc, tu tiens compte aussi de la valeur, pas juste des heures de travail que tu as perdues, mais aussi la souffrance en soi. Donc, tu dis, écoute, les heures de sommeil que tu perds, d'autres choses, on essaie de leur attribuer une valeur. Ça monte à 13 milliards.
Wow!
Et si tu prends quelques opérations pour lesquelles on n'a pas des données aussi fréquentes, mais qu'on l'a occasionnellement, tu peux le monter à 24 milliards pour les Canadiens. Ramène ça en tête par tête de pipe. C'est des coûts qui vont entre 3 000 et 18 000 $ par personne qui attend pour des services. Donc là, tu es en train de dire que le coût d'attente, c'est-à-dire que ces gens-là, s'ils pouvaient avoir une procédure pour laquelle ils pourraient payer, ils seraient prêts à payer au minimum 3 000 $ pour avoir accès à des soins. Et ça devrait te donner une idée du coût qu'on a au Canada d'attendre pour des services par le fait que je te disais au début avec ma joke, qui est que le système est gratuit si tu as les moyens d'attendre. Le voilà, le moyen d'attendre, c'est toutes les souffrances que tu dois entamer. Mais aussi, si tu es un travailleur, donc disons que tu es un camionneur, tu as une hernie, tu peux pas conduire. Là. Ton travail n'est pas disponible. Mais la valeur de ton temps de travail peut représenter plusieurs milliers de dollars de revenus annuels.
Tu sais, dans ton truc, on parle de jusqu'à 10 000 quasiment par personne.
Exactement. Puis ça, c'est la source que je t'ai envoyée. C'est une étude récente du Fraser, mais qu'ils font depuis maintenant, je pense que ça fait 20 ans qu'ils le font. Et chaque année, ils font juste le mettre à jour avec des données. Mais ils n'ont pas toutes les procédures. Si tu vas dans les données, ils ont plusieurs procédures qu'ils n'ont pas. Le CMA, Canadian Medical Association, avait fait, on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre, c'est quoi qui nous manque, c'est quoi les types d'opérations qu'on peut trouver. Puis chaque fois que tu gardes les ordres de grandeur des choses qu'on a avec des données plus sporadiques, la proportion n'arrête pas d'augmenter. Donc, le coût d'attendre vaut plusieurs dizaines de milliards de dollars. Et en fait, c'est quelque chose que je vais dire, c'est que le point d'un système de santé publique, c'est littéralement de faire du rationnement. C'est le but de ça, parce que s'il n'y avait pas de rationnement, le système ne serait pas abordable, parce qu'avec l'idée d'un service médical qui est payé par d'autres personnes, bien, tu as plus de consommation de soins et tu as moins d'incitation à contrôler les coûts parce que tu n'as plus autant de compétition. Donc, ce que tu as, c'est un système qui pourrait exploser dans les coûts. C'est pour ça qu'on a du rationnement. C'est pour ça qu'on a des listes d'attente. C'est en fait l'effet désiré du système qu'il y a. Et c'était, tu peux le retrouver même au début avec la commission Castonguay quand ça commençait, ou avec un ancien que personne ne va connaître, Gérard Nepveu, qui s'était même présenté pour l'Union nationale, je pense, à un moment, dans les années 70. Il disait qu'il s'attendait à ce qu'il y ait des listes d'attente, puis que ça faisait partie du coût d'avoir un système de santé public, d'avoir des listes d'attente.
Donc, ce que tu me dis, c'est qu'un système public ne sera jamais efficace. Ce n'est que de la gestion de rationnement.
Exactement. Puis je pense que c'est pour ça qu'à l'Institut, on défend souvent l'idée de dire comment est-ce qu'on peut avoir les incitations du secteur privé qui viennent avec la concurrence, mais tout en gardant l'idée d'un service, un accès universel.
Mais une gestion privée.
Mais c'est ça. Pour ça que nous, ce qu'on défend généralement, c'est l'idée de dire, bien, comment est-ce qu'on fait pour avoir... On peut-tu séparer pour commencer le financement de la provision? Est-ce que les hôpitaux ont besoin d'être des hôpitaux publics ou est-ce qu'il y a besoin d'un financement public?
Ouais.
Et s'il y a financement public, moi, je défends l'idée d'un certain financement public. Je ne défends pas qu'il aille à l'hôpital pour qu'on subventionne des hôpitaux. Je préfère que ça aille dans la poche des gens en fonction de leurs besoins, de telle sorte à ce qu'on assure à tout le monde un panier, un certain financement de panier, mais que dans le reste, on permet aux forces du marché d'agir pour contrôler les coûts, pour encourager l'innovation, pour avoir des services plus flexibles, plus adaptés à certaines sous-populations, et ne pas avoir un service mur à mur, cloisonné, avec des incitations aussi perverses que celles qu'on a présentement, qui mènent ultimement et inévitablement à du rationnement.
Et le coût ultime, parce que tu me parlais d'argent tantôt, dans des cas très conservateurs là, où on perd au moins 4,2 milliards de dollars par année en attente, donc en argent monétaire, il y a aussi le coût ultime qui est le coût de la vie. C'est Paul Brunet, le président de protection des malades, qui m'avait envoyé ça. Il y a un site qui s'appelle secondstreet.org qui fait le calcul des gens qui meurent sur les listes d'attente. Et l'an passé, il y a 23 746 patients qui sont morts sur les listes d'attente au Canada. C'est en augmentation à chaque année. Tu vois, l'an passé, c'est une augmentation de 3 % depuis qu'ils ont commencé à faire ça, depuis avril 2018, selon ce site-là, il y a plus de 100 000 Canadiens qui sont morts sur des listes d'attente.
Non seulement ça, mais je vais te déprimer encore un petit peu plus parce que chaque fois que je dois parler de ce sujet-là, les gens sont vraiment surpris. Puis peut-être parce qu'on a internalisé complètement l'idée d'un système de santé qui
efficace,
dans lequel on doit attendre. Donc, on n'a plus l'idée même de bon, pourquoi est-ce que ça serait différent, en fait?
Ouais.
Bien, juste pour te donner une idée, dans les années 90, quand tu regardais le temps d'attente moyen entre le référencement, donc que tu rencontres un généraliste, ouais, donc ton médecin de famille, tu rencontres ton médecin de famille, et combien de semaines tu dois attendre après jusqu'à ce que tu aies ton traitement ultime. Dans les années 90, c'était 9 semaines à peu près. Pour le Canada dans son entièreté, c'était 9,3 semaines que tu devais attendre pour avoir ton traitement après avoir déterminé c'était quoi. Aujourd'hui, c'est 28,6 wow, semaines. Oui, donc, voilà, c'est si peu plus que trois fois... C'est presque trois fois plus.
Ouais.
Et il n'y a pas beaucoup de gens qui le remarquent en soi. C'est comme si on avait vraiment intériorisé le processus d'attente et on se dit que ça fait tout à fait partie de la game. C'est inévitable, donc on s'est habitué à ça. Mais il n'y a pas de raison à ce que ça soit une fatalité en soi, parce que quand tu regardes encore une fois les États-Unis avec tous les aspects pervers qu'il y a aux États-Unis, on pourrait parler des heures de, par exemple, les restrictions à la concurrence qui existent aux États-Unis. Il y a des lois étranges qui réduisent la concurrence. Mais malgré toutes ces réglementations-là qui limitent les forces du marché aux États-Unis dans le système de santé, les temps d'attente sont assez stables. Et en fait, la qualité des soins est exceptionnelle. Comme je te disais tantôt, les taux de survie au cancer du pancréas 5 ans après un diagnostic sont excessivement élevés.
Ouais, c'est,
et c'est le cancer, la raison que je le dis, c'est que c'est un des cancers les plus agressifs.
Vraiment.
Qui ne pardonne pas, si tu veux, d'une certaine manière. Tu regardes les taux de survie à des ACV, les taux de complications post-chirurgie beaucoup plus bas. Sur tous les indicateurs de performance, quelques-uns, tu sais, des fois, un ou deux ici, ça performe en faveur du Canada. Mais si tu prenais tout ce qui est disponible, dans à peu près 80 % des cas, les États-Unis surperforment le Canada dans son ensemble. Et quand je dis surperforme, c'est pas différence. Ouais. On parle vraiment de...
5 fois
de
plus.
Une différence de course entre un cheval puis une tortue.
Ouais. Incroyable. Merci, Vincent. Les plus cyniques diront, c'est pas grave, on a l'aide médicale à mourir.
D'après moi, c'est pour ça qu'on l'utilise encore plus, parce qu'on est tellement magané que finalement, on n'est pas réparé assez tôt. Mais je voulais juste dire, ça paraît pas, mais ça s'améliore.
Oui, c'est ce qu'un ministre de la Santé nous a déjà dit. Merci, Vincent.
Comme ça, Dunlop à McLaren. Quand j'ai le temps.
Quand il y a le temps, salut, bye.
Bye.
Vincent Geloso, professeur au George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal. Quand ça va bien, ça va bien. On revient.
Willett.
Non, 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 non.
En direct.
On revient dans pas long.
Radio X.